Et merci d'avoir choisi Europe 1. Il est midi.
Le voile islamique n'est pas l'avenir souhaitable de la culture et de la société française.
Bruno Le Maire sur Europe 1 contre le voile islamique en France. La question du voile à la une de l'actualité, cette fois-ci dans une caserne de pompiers.
Oui, avec une maman voilée qui accompagnait une classe. Elle s'est vue demander de retirer son foulard. Au final, c'est tous les gamins qui ont fait demi-tour, le point dès le début de ce journal. Quelle issue pour General Electric ? Les discussions se poursuivent, mais la CGT locale fait bloc contre tout accord pour l'instant. Les précisions dans quelques minutes. Angela Merkel à Toulouse avec Emmanuel Macron. Le couple franco-allemand se retrouve à la veille d'un sommet européen d'importance. Le moteur de l'Europe est-il en panne ? Dans ce journal également, la France va discuter avec les pour juger les djihadistes de l'État islamique, va-t-il y avoir intervention des forces françaises ?
Si les forces françaises interviennent elles-mêmes pour prêter main forte au départ de ces djihadistes, il incombe aux autorités françaises de les rapatrier pour les juger eux-mêmes.
Précision à suivre, nous serons à la frontière turco-syrienne également. Recep Tayyip Erdogan ne déclarera jamais de cesser le feu, il l'a encore redit. Le projet de Noël Le Graët de faire un match France-Algérie en Algérie, 20 ans après les débordements au Stade de France. Et puis...
Je bosse comme un malade maintenant.
C'est pour ça que t'es encore en pyjama à midi moins 20.
Les voilà de retour, Dove, Serge et les autres, les héros de La Vérité si je mens, encore au lycée ou jeune businessman. Mathieu Charrier n'a pas été très convaincu. La météo, Céline Dacosta, une journée maussade.
Oui, particulièrement sur la partie nord, il va pleuvoir encore toute cet après-midi. Pour ceux qui se trouvent plus au sud, là, ça sera mitigé avec un ciel bien voilé. Quant aux températures, elles sont semblables à celles d'hier et même en légère hausse par endroit, une moyenne de 15 à 20 degrés. Merci Céline, on vous retrouve à midi et demi. Météo complète sur Europe 1.
Europe 1.
Après Jean-Michel Blanquer, c'est donc, Pierre, à Bruno Le Maire de s'exprimer très clairement contre une loi sur le voile islamique.
Et c'était sur Europe 1 ce matin, le ministre de l'économie a donné son sentiment et même s'il est contre un texte interdisant le voile, il estime que ce dernier n'est pas compatible avec la culture française.
Ce qui est en jeu, c'est notre culture française. Et que plutôt que d'une loi, il faut que chacun d'entre nous, chaque citoyen, réaffirme cette culture française. Et la culture française, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes.
Ça veut dire, pardonnez-moi, que le voile islamique serait une menace pour la culture française, si
je considère
vous
que
bien.
Le voile islamique n'est pas l'avenir souhaitable de la culture et de la société française. Je le dis, ce que je le pense profondément. Je pense que l'avenir souhaitable de la culture et de la société française, c'est la stricte égalité entre les femmes et les hommes. C'est le visage découvert, c'est le visage avec lequel vous parlez, avec lequel vous discutez, avec lequel vous vous présentez. C'est le refus de tout signe qui pourrait marquer une différence de niveau.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1, une déclaration qui intervient au surlendemain d'un nouvel épisode impliquant le voile. La semaine dernière, vous en souvenez, il y avait eu cette mère de famille accompagnatrice interpellée par un élu RN. Cette fois-ci, c'est aussi une maman qui accompagnait une classe, mais dans un univers où les gamins ont des papillons dans les yeux, puisque c'était une caserne de pompiers de Creil dans l'Oise. L'un des officiers a demandé à cette maman de retirer son voile. Résultat, c'est toute la classe qui a fait demi-tour. Justin Morin.
Les pompiers de l'Oise et en particulier l'officier en question regrettent cette mauvaise interprétation de la loi. En fait, il a d'abord refusé l'accès à une première accompagnatrice vêtue d'un long voile qu'il juge trop recouvrant. Puis une autre mère est arrivée avec un deuxième groupe d'enfants. Elle porte un foulard plus discret, mais par souci d'équité, le pompier a estimé qu'il ne devait faire entrer aucune des deux femmes. Éric Deval-Roger, élu Les Républicains de l'Oise et président du service départemental d'incendie et de secours, comprend la colère des deux accompagnatrices, mais prend la défense de son officier.
Cet officier des sapeurs-pompiers que je connais bien n'est ni un raciste ni un extrémiste. C'est vraiment un malentendu, mais il faut absolument clarifier les textes. Est-ce qu'on autorise tous les signes finalement religieux dès lors que le visage est découvert ? Ben, il y a vraiment beaucoup d'interprétations possibles.
Les pompiers de l'Oise se sont excusés oralement auprès des accompagnatrices et pour les enfants, une nouvelle visite doit être rapidement organisée.
Le récit de Justin Morin.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 4, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. L'échéance est proche, Pierre. D'ici la fin de la semaine, General Electric devra s'accorder avec l'intersyndicale de Belfort pour trouver une solution au conflit.
Ouais, et pour l'instant, ça coince au niveau des emplois. Le gouvernement est bien sûr à pied d'œuvre pour accompagner les deux parties pour parvenir à un accord satisfaisant pour tout le monde. Bruno Le Maire a ce matin donné des indications sur notre antenne. Comment est-ce que tout cela va se terminer, Manuel Dutheil ?
Alors déjà, on va peut-être regarder l'objectif du gouvernement. C'est quoi ? Eh bien, c'est de réduire au maximum le plan
social hein, qui a été annoncé il y a plusieurs mois par General Electric. L'Américain a bien proposé, on l'avait révélé sur Europe 1, de sauver quelques emplois, 150, mais Bercy lui avait tout de suite répondu « Vous êtes bien gentil, ce n'est pas assez ». Depuis, toutes les parties planchent donc pour trouver une solution, et la solution que souhaite General Electric est assez simple. Sur le papier, ils veulent obtenir un accord de compétitivité pour le site de Belfort contre donc des emplois qui pourraient être sauvegardés. Alors un accord de compétitivité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire revenir sur des avantages acquis par les collaborateurs, comme par exemple supprimer des jours de RTT, une solution qui pourrait convenir, semble-t-il, au ministère de l'économie, mais certains syndicats ne veulent pas en entendre parler. On a une chance d'y arriver, veut-on quand même croire à Bercy ? Elle est mince, mais il faut la jouer. C'est l'avenir du site, de toute manière, qui en dépend. Bruno Le Maire doit encore avoir en ligne ce soir le patron américain de General Electric. Un coup de fil qui, semble-t-il, pourrait être décisif.
Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. À propos de syndicats, la CGT de Philippe Martinez, mais aussi FO, FSU, Solidaire et 4 autres ont appelé à une première journée de grève interprofessionnelle le 5 décembre prochain, en cause la future réforme des retraites.
Les syndicats encore, Pierre, CGT, FO et CFE-CGC ont appelé à la grève, cette fois chez Conforama.
Oui, les partenaires sociaux qui protestent contre le plan de sauvegarde de l'emploi présenté hier par la direction, un texte qu'ils considèrent tout simplement comme honteux, Mouloud Amour de Force Ouvrière.
Quand il nous a annoncé la mesure supralégale simplement de 85 euros par année d'ancienneté, c'est du foutage de gueule, c'est un véritable scandale, c'est indécent. Nous ne voulons pas d'un PSE low cost. Il est hors de question que les salariés pâtissent de cette situation qui, eux, n'ont rien demandé. On n'a pas à pâtir des fraudes de notre actionnaire qui nous a mis dans cette situation-là. Donc il est inacceptable que les salariés partent avec effectivement des indemnités telles que énoncées hier par la direction générale ainsi que par l'excellent site Conforama. Cela est inacceptable. Il est inadmissible qu'on puisse effectivement accepter, qu'on puisse annoncer ce genre de mesure.
Mouloud Amour de Force Ouvrière, joint pour Europe 1 par Maud Descamps. Notez que les salariés du siège de Conforama se mettront en grève cet après-midi. C'est une info Europe 1.
Il est midi 7.
Europe 1.
Restez avec nous, une première pause et dans un instant, le couple franco-allemand se rencontre à Toulouse à la veille d'un sommet européen. Mais au fait, pourquoi faire ?
Il est midi 10, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Demain, l'Europe se réunit à nouveau. Pierre, théoriquement, il s'agira du dernier sommet avant le Brexit, programmé le 31 octobre prochain.
Oui, et face à une problématique aussi cruciale que le départ, peut-être sans accord, d'un grand pays anciennement européen, face à une crise diplomatique et militaire comme ce qui se passe dans le nord de la Syrie, il y a toujours eu pour garant en Europe le couple franco-allemand.
Angela Merkel rencontre donc Emmanuel Macron à Toulouse pour un conseil des ministres franco-allemands. Le but est bien sûr d'afficher l'entente des deux pays à la veille de ce sommet qui s'annonce chargé.
Pour en parler, David Doucan, chef du service politique d'Europe 1. Bonjour David.
Bonjour Pierre.
Question, il existe encore ce couple franco-allemand ?
Écoutez, Emmanuel Macron et Angela Merkel visitent l'usine d'Airbus. En ce moment ou dans quelques minutes, cela m'inspire une métaphore. L'Europe, c'est un bimoteur. L'Allemagne sur une aile, la France sur l'autre. Eh bien, les deux engins sont aujourd'hui grippés. D'abord, parmi les enseignements à tirer de l'affaire Goulard, il y a le fait qu'Angela Merkel a perdu la main sur les conservateurs du PPE. Puisque contrairement à ce qu'elle a pu souhaiter, ils ont refusé de voter en faveur de la candidate française. Pourquoi ? Parce qu'Angela Merkel est chancelière depuis maintenant 14 ans et l'exercice du pouvoir, cela use. Quant à Emmanuel Macron, il vient de prendre une terrible claque, mais surtout, on est aujourd'hui bien loin du temps où il marchait seul au Louvre sur l'air de l'ode à la joie. À l'époque, Bruxelles pensait avoir enfin trouvé son champion. Mais que reste-t-il des grands discours de la Sorbonne et de l'Acropole ? La taxe GAFA ? Seule la France la met timidement en place. Un budget de la zone euro, à part la déclaration d'intention, il n'est à ce stade pas doté d'un seul centime. L'Europe de la défense, elle se met en place au plan industriel, mais on voit bien avec l'offensive turque au nord de la Syrie que l'Europe de la défense opérationnelle et stratégique n'existe pas.
Le moteur est grippé, David. David, quelle est la conséquence de tout cela ?
Eh bien, c'est le risque populiste. C'est le risque populiste. Même si elle a échoué à se maintenir en Italie et en Autriche, l'extrême droite gouverne en Hongrie, en Pologne, et en République tchèque. Emmanuel Macron les a désignés comme les adversaires de l'idéal européen, alors même qu'ils sont membres de l'Union. Équation complexe qu'il ne pourra résoudre que si la France et l'Allemagne sont fortes et surtout si elles sont ensemble.
Merci de cet éclairage. David Doucan, chef du service politique d'Europe 1.
Il est midi 12, la suite de votre journal. Raphaël Duchemin, Pierre Devine.
Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, va se rendre très rapidement en Irak pour discuter de la création d'un dispositif international. Le but est de juger les djihadistes du groupe État islamique.
Sur les 400 ressortissants français, si l'on enlève les femmes et les enfants, il reste 100 combattants de l'État islamique. Le gouvernement envisage un plan pour transférer ces combattants du nord de la Syrie vers l'Irak. Et vous avez des précisions, Théo Manval.
Oui, les discussions avec Bagdad se sont intensifiées ces derniers jours sur la possibilité d'un transfert vers l'Irak de 50 à 100 djihadistes français considérés comme les plus dangereux et que Paris veut donc exfiltrer des camps du nord de la Syrie dont la sûreté, vous le savez, est menacée par les conflits en cours. L'écueil, c'est que malgré la présence de forces françaises dans la zone, la France ne veut surtout pas effectuer ce transfert elle-même. Pourquoi ? Écoutez Maître Patrick Baudouin, avocat spécialiste en droit international.
Si les forces françaises interviennent elles-mêmes directement pour prêter main forte au départ de ces djihadistes des camps du nord-est syrien, il incombe aux autorités françaises d'aller jusqu'au bout du processus, donc de les rapatrier pour les juger eux-mêmes. C'est un risque que ne veut pas prendre sans doute l'État français.
Vous savez en effet que le Quai d'Orsay veut que ces djihadistes, même français, soient jugés là où ils ont commis leurs crimes, c'est-à-dire au Moyen-Orient. Paris négocie donc avec l'Irak pour qu'elle accepte de réaliser ce transfert. Selon nos informations, Bagdad semble d'accord, mais à deux conditions. Un, que la France assume financièrement le coût de ces détentions sur le sol irakien. Et deux, que l'on évite tout nouveau tollé sur leur cadre juridique et celui des procès à venir. L'Irak ne veut pas d'une nouvelle levée de boucliers comme au printemps dernier où il y avait eu des condamnations à mort de ressortissants étrangers. La piste d'un tribunal international est donc à l'étude. 7 pays dont la France ont en ce moment même des équipes juridiques en Irak pour tenter de se mettre d'accord sur ce point crucial.
Merci Théo Manval. Pendant ce temps, le président turc Recep Tayyip Erdogan exige que les forces kurdes désarment et se retirent de la frontière turque. Il affirme exclure toute négociation avec ces forces kurdes. L'armée de Bachar al-Assad, elle, reprend peu à peu possession du nord-est de la Syrie avec l'appui des soldats russes. Le but du jeu est d'éviter un affrontement direct avec l'armée turque. Et dans la ville frontalière de Karkamis, les habitants ne croient justement plus à l'affrontement depuis l'entrée en jeu de Vladimir Poutine. Le reportage sur place de l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Sébastien Soldaini.
Le temps d'un après-midi, c'est une tronçonneuse qui couvre au loin les bruits de l'artillerie et des combats. Les arbres sont élagués pour que les chars turcs puissent passer. Mais Halley se dit que ces grandes manœuvres sont peut-être inutiles si la Russie fait tampon.
Pour moi, le gagnant de ce grand jeu, le gagnant de ces tensions, c'est Poutine. Les Américains ont déstabilisé cette région, ils sont partis. Poutine, il a pris la place et il va y rester. Lui, il a les moyens d'installer le dialogue. Et je dirais même que la Russie, c'est la clé.
Recep Erdogan entretient de bonnes relations avec Vladimir Poutine. Moscou est l'allié de Damas sur le terrain syrien. Armet garde tout de même en tête les bombardements massifs d'Alep et de la Ghouta par l'aviation russe.
La présence de la Russie nous rend un peu nerveux. Mais si la Russie veut mettre fin à cette guerre, elle a les moyens de le faire. Et elle peut le faire très 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 vite.
Russie, Turquie, Syrie, le trio n'est pas inédit. Les mêmes se sont déjà mis d'accord pour instaurer une zone tampon autour d'Idlib. C'était il y a à peine plus d'un an. Karkamis, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Macron, il faut te réveiller. C'est derrière ce slogan que des militantes du collectif Nous Toutes se sont rassemblées, Pierre, hier soir, près de l'Élysée.
Oui, elles dénonçaient l'accélération des féminicides. 121, rendez-vous compte, depuis le début de l'année, soit autant de femmes tuées que pour toute l'année 2018, pour tenter d'alerter l'opinion des affiches que vous avez peut-être déjà pu voir dans votre ville. Eh bien, ces affiches sont collées chaque nuit. Victor Dolande a suivi plusieurs de ces activistes hier soir.
En 10 mois, 121 femmes tuées, c'est autant que toute l'année 2018. Macron, tu agis quand ?
Dans un local étudiant, Garance écrit ce message à la peinture noire sur des feuilles blanches. Elle a rejoint le mouvement le mois dernier, un combat comme une thérapie.
J'ai subi des violences déjà, j'ai que 20 ans et j'en ai déjà subi à plusieurs reprises, des viols en l'occurrence. Quand je peins, j'ai l'impression que ça me libère aussi d'un poids, ça me libère d'une parole qui m'a été refusée peut-être quand j'étais plus jeune. Ça me fait beaucoup de bien aussi. Oui.
Les slogans terminés, quatre autres activistes prennent le relais et arpentent les rues de Paris, collent à la main, mais Reddit donne les dernières consignes.
On va nous voir, on va peut-être nous interpeller, mais vous ne répondez pas, les laissez faire quoi.
Une heure plus tard, elles ont pu afficher 3 messages sur des murs vierges. Émue, mais Reddit lance un appel à l'aide.
C'est une horreur en fait. T'as rarement l'habitude de compter jusqu'à 121 dans ta vie. Et là, tu colles qu'il y a 121 femmes tuées, c'est plus possible. C'est un peu un appel de détresse, quoi. Quand est-ce que tu agis? Là, on parle à Macron, mais c'est toi. Ça doit toucher chacun de nous.
Elles sont déjà plus de 400 à Paris à coller des affiches tous les soirs. Et chaque jour, une vingtaine de femmes les contactent pour rejoindre le mouvement.
Reportage de Victor Delande.
La loi sur le gaspillage alimentaire a-t-elle vraiment changé les choses, Pierre ?
10 millions de tonnes d'aliments consommables jetés chaque année en France, un chiffre qui fait réfléchir en cette journée mondiale, justement, de lutte contre le gaspillage alimentaire, dont vous reparlerez dans La France Bouge tout à l'heure à 13h, cher Raphaël. Le constat, eh bien, c'est que malgré toutes ces lois contraignantes pour les supermarchés, les réseaux de distribution, les stocks des banques alimentaires n'ont pas augmenté. Pierre Herbulot.
Des crêpes, de la charcuterie, des fish and chips.
Dans la chambre froide, un petit tas de produits frais, bientôt périmés, mais encore consommables. La loi qui oblige les industriels à donner leurs invendus n'a pas fait augmenter les stocks de la Banque alimentaire d'Île-de-France. Pour sa présidente, Nicole Farlotti, elle a même eu un effet pervers.
On n'est pas le seul moyen pour les magasins de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc il y a aussi le fait qu'ils gèrent mieux leurs stocks, qu'ils font de la vente à prix cassé. Donc au niveau de la grande distribution, nous, on n'a pas constaté vraiment d'augmentation des dons. Et même quelquefois, voilà, les magasins qui gèrent mieux leurs stocks, on a vu baisser les dons.
Pour avoir autant qu'avant, Gilles, le responsable de l'entrepôt, doit désormais faire en camion plus de supermarchés, avec quelques contraintes logistiques.
On est obligé de rester quand même relativement proche de l'entrepôt. On ne peut pas faire des ramasses quotidiennes à 30 ou 40 km d'ici, quoi. Parce que c'est quand même des produits qui sont en fin de vie, hein. Donc il faut les distribuer quasiment dans la journée ou au mieux le lendemain, hein.
Malgré tout, l'an dernier, ce sont 2000 tonnes d'aliments invendus qui ont évité le gaspillage grâce à cet entrepôt.
Reportage de Pierre Herbulot. En bref, une peine de pas moins de 10 ans de prison contre Rosa Dacro. Souvenez-vous, c'est cette mère qui avait accouché et laissé son bébé dans le coffre de sa voiture pendant 23 mois, tout en le nourrissant et le maintenant en vie dans des conditions qui dépassent l'entendement. Parce que Serena, c'est la petite fille, âgée aujourd'hui de 7 ans, est détruite. Vous ne pouvez pas laisser repartir sa mère avec un blanc-seing. C'est ce qu'a déclaré l'avocat général.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 19.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. Un match mythique ressuscité en Algérie et les films à voir ou pas d'ailleurs ce mercredi. A tout de suite.
Il est midi 22, la suite de votre journal. Pierre Devineau, Raphaël Duchemin.
Le sport avec le football, et vous vous souvenez de la pelouse du Stade de France, envahie je suppose lors du match France-Algérie, c'était en 2001.
Et presque 20 ans plus tard, en signe d'apaisement, l'idée émerge d'un nouveau match symbole, mais cette fois-ci en Algérie, à la manœuvre, entre autres, Noël Le Graët. Et les choses devraient se faire, Christophe Lamar.
Oui, le président de la Fédération algérienne le souhaite et il y croit. Kheireddine Zetchi l'a dit et répété hier soir à Lille, juste après la victoire des Fenech contre la Colombie. En fait, les discussions remontent déjà à quelques temps avec le président de la Fédération française, Noël Le Graët. Les deux hommes doivent d'ailleurs se revoir en début d'année prochaine pour évoquer à nouveau ce sujet. Alors dans ce dossier, chacun avance à pas compter. Il faut dire que le sujet est sensible. Organiser une rencontre en Algérie entre le champion du monde et le champion d'Afrique dépasserait bien sûr le cadre du football et du sport. C'est pour cela que du côté français, on s'est montré très prudent jusqu'à présent. Le souvenir d'octobre 2001 est encore dans toutes les mémoires. Ce soir-là, le match entre Français et Algériens avait dû être arrêté après l'envahissement de la pelouse. Il avait déjà très mal commencé avec les sifflets accompagnant la Marseillaise. Hier soir à Lille, aucun incident sérieux n'a été déploré, de quoi rassurer les autorités et la Fédération française. L'Élysée lui-même ne voit pas cette rencontre d'un mauvais œil. Il ne fera rien pour l'empêcher de se tenir.
Merci Christophe Lamar.
Il est midi 23, à la suite de votre journal, Pierre Devineau, Raphaël Duchemin.
Et comme chaque mercredi, Mathieu Charrier est là pour nous présenter les films de la semaine. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mathieu. À tous.
D'abord, les revoilà, les héros de La Vérité si oui. Je mens, mais avec 20 ans de
un peu plus jeune, effectivement.
Ouais,
vous
ouais.
Savez, La Vérité si je mens, ça avait quand même fait 17 millions d'entrées sur les trois films. Donc évidemment,
s'il vous plaît, ouais.
Il y a des producteurs malins qui se sont dit, tiens, si on racontait maintenant là, jeunesse de ces personnages. Donc, on est dans les années 80 avec Patrick, le fils à papa, qui tente de devenir entrepreneur en tenant un vidéoclub. C'est pas gagné. Dove, déjà le chéri de sa maman. Il s'échappe du lycée pour se faire recruter dans une boutique du Sentier. Yvan, timide, qui tente de s'en sortir. Alors que Serge, lui, drague déjà tout ce qui bouge et enchaîne les mensonges. Alors, on se met dans l'ambiance.
C'est la vérité.
Hey, la vérité.
Ah, la vérité, si je mens.
Yala.
Voilà, il y a toujours de la vérité, des yalla dans tous les sens. Après,
et
franchement,
la musique.
La musique, faut être quand même un fan inconditionnel des films pour trouver un intérêt à ce préquel. Petite mention pour Gilbert Melki qui apparaît en guest star, mais après, les autres personnages sont beaucoup moins réussis. Il n'y a pas vraiment d'intrigue dans le film. Bref. La vérité, c'est pas incontournable.
Et puis, rien à voir, hein, Mathieu, un petit film, ça s'appelle Camille et ça retrace la vie et malheureusement la mort de l'une de nos consoeurs journalistes.
Oui, puisque ça raconte l'histoire vraie de Camille Lepage, jeune photoreporter indépendante qui a une fin tragique puisqu'elle est morte en 2014 à seulement 26 ans, prise dans une embuscade en Centrafrique, pays qu'elle ne quittait plus pour y photographier et témoigner de la guerre civile qui ravageait le pays. C'est donc un film qui parle de la difficulté aujourd'hui de faire du reportage de guerre, souvent sans moyens, et c'est aussi le destin tragique d'une jeune femme passionnée.
Vous êtes étudiants tous?
Oui. Et toi, tu es journaliste?
Je fais de la photo, moi, juste. J'ai 25 ans.
25 ans? T'as pas peur?
Non.
Elle a peur, Camille. Le réalisateur nous raconte tout ça sans tomber dans le pathos. Nina Meurice, qui joue ce personnage, retenez ce nom, c'est une grande actrice qui est en train de naître, à mon avis. Et donc, allez découvrir ce film sobrement intitulé Camille. Je mets 4 étoiles sur 5 et 2 étoiles. Et elle l'a pour la vérité si je mens.
Merci Mathieu Charrier. Moi j'ai une pensée toute particulière à la maman de Camille que j'avais reçue en interview, qui avait été très forte. Je lui avais d'ailleurs posé la question si elle avait réussi à voir le film. Et elle avait dit que oui, mais que c'était difficile. Voilà, le destin tragique de Camille.
Merci Pierre et on vous retrouve tout à l'heure à partir de 13h pour un nouveau journal.
Il est midi 25. Europe 1.